Chapitre 2. Mardi 8 décembre, matin. L'inspecteur Ionalina commande un grand sandwich parmesan, bressaola et tomates séchées dans le petit bistrot Il Café sur Bergsgatan. Il est tôt et le café vient d'ouvrir. La fille qui prend sa commande n'a pas encore eu le temps de sortir les pains de leur sachet. Après avoir inspecté les lieux du crime à Tumba, tard la veille, rendu visite à la victime rescapée à l'hôpital Karolinska à Solna et parlé avec les deux médecins, Daniela Richards et Eric Maria Bark, au beau milieu de la nuit, il était rentré dormir 3 heures dans son appartement à Fredel. Yona attend son petit déjeuner en regardant l'hôtel de ville à travers la fenêtre embuée. Il pense au conduit souterrain, le tunnel qui passe sous le parc entre les énormes immeubles de la police et de l'hôtel de ville. On lui rend sa carte bancaire. Il emprunte un stylo gigantesque sur le comptoir en verre, signe le reçu et quitte le café. De la neige fondue tombe drue. Il se presse le long de Bergsgatan, son sandwich chaud dans une main et un sac de sport contenant sa crosse de bandy dans l'autre.
Ce soir, on joue contre les gars de la Spanne. On va morfler, pense Yona. Ils vont nous massacrer, exactement comme ils l'ont promis.
L'équipe de bandits de la Rikskrim perdait toujours. Contre la police de proximité, la police routière, la police maritime, le Nationala Einsatzdirkan, le Piquet Polisen et le service de la sûreté. Mais c'était une bonne excuse pour se retrouver après au pub et se consoler.
« Les seuls que nous ayons jamais battus, c'est les gars du labo, » pense Yona.
Tandis qu'il longe la façade du commissariat et sa grande entrée, il ne se doute pas encore qu'il ne va pas jouer au bandit ni aller au pub ce mardi. Quelqu'un a dessiné une croix gammée sur le panneau de la salle d'audience du tribunal de première instance. À grands pas, il poursuit sa montée vers la maison d'arrêt de Kronoberg et voit la barrière se fermer silencieusement derrière une voiture. Des flocons de neige fondent sur la grande vitre de la guérite. Yona passe devant la piscine de la police et traverse en biais la pelouse en direction du pignon du gigantesque complexe. La façade fait penser à du cuivre sombre, lustré. Mais sous l'eau, pense-t-il. Aucun vélo n'est rangé dans le long abri qui jouxte la salle où sont délivrés les mandats d'arrêt. Les drapeaux mouillés pendent lourdement le long des deux mâts. Yona court à petite foulée entre deux plinthes en métal, tape ses chaussures sous le toit de verre givré pour se débarrasser de la neige et franchit la porte d'entrée de la RPS. En Suède, la police nationale dépend du ministère de la Justice, mais celui-ci n'a aucun pouvoir de décision sur l'application de la loi. C'est la RPS, composée notamment de la Rikskrim, du service de la sûreté, de l'École nationale supérieure de police et du laboratoire gouvernemental de la police technique et scientifique, qui représente l'autorité administrative. La Rikskrim est la seule police opérationnelle qui ait la responsabilité de lutter contre la criminalité lourde au niveau national et international. Ionalina y occupe la fonction d'inspecteur principal depuis 9 ans. Yona traverse le couloir, enlève son bonnet près du tableau d'affichage et jette un coup d'œil aux annonces. Des cours de yoga, quelqu'un qui veut vendre sa caravane, un tract syndical et les changements d'horaire du club de tir. Le sol nettoyé vendredi est déjà très sale. La porte de Benny Rubin est entr'ouverte. L'homme, 60 ans, la moustache grise, la peau fripée ravagée par le soleil, a appartenu au groupe Palm durant quelques années. Il est désormais rattaché au service des transmissions et prépare le passage au niveau système radio Raquel. Il est assis devant son ordinateur, une cigarette derrière l'oreille. Il écrit avec une lenteur effrayante.
« J'ai des yeux derrière la tête, » dit-il soudain. « Ça explique peut-être pourquoi tu tapes aussi mal, » plaisante Yona.
La dernière trouvaille de Benny consiste en une affiche publicitaire pour la compagnie aérienne SAS. Une jeune femme exotique vêtue d'un minuscule bikini sirote un cocktail de fruits avec une paille. Benny a été tellement furax quand ils ont interdit les calendriers sexy que tout le monde a cru qu'il allait démissionner. Mais il s'est enfermé depuis des années dans une protestation silencieuse et obstinée. Le premier de chaque mois, il change de décoration murale. Personne n'a dit qu'il était interdit d'afficher de la publicité pour des compagnies aériennes, des patineuses artistiques faisant le grand écart, des instructions de yoga ou de la publicité pour la lingerie H&M. Yona revoit un poster de la sprinteuse Gail Devers en short moulant et une lithographie d'Egon Schiele représentant une femme rousse en culotte bouffante, les jambes écartées. Yona s'arrête pour saluer son assistante, Anya Larson. Elle est assise devant son ordinateur, la bouche entrouverte, et son visage est si concentré qu'il choisit de ne pas la déranger. Il continue jusqu'à son bureau, suspend son manteau mouillé près de la porte, allume l'étoile de l'avant accrochée à la fenêtre et feuillette rapidement son casier. Une communication sur le milieu du travail, une proposition sur les ampoules basse consommation, une requête du parquet et une invitation du personnel pour le buffet de Noël à Skansen. Yona ressort de son bureau, entre dans la salle de réunion, s'installe à sa place habituelle, déballe son sandwich et commence à manger. Sur le grand tableau blanc accroché sur le plus long des murs, on lit « Tenue, équipement de protection, armes, gaz lacrymogène, moyens de communication, véhicules, autres outils techniques, canaux, fréquences, mode de surveillance, silence radio, code, test de liaison. » Peter Neslund s'arrête, s'appuie sur le chambranle, dos à la salle de réunion, et lâche un rire satisfait. 35 ans environ, musclé et chauve, Peter est inspecteur divisionnaire, ce qui fait de lui le supérieur direct de Yona. Depuis des années, il flirte avec Magdalena Ronander, sans remarquer son regard gêné et ses perpétuelles tentatives pour maintenir un ton plus professionnel. Magdalena est inspecteur à l'unité de recherche depuis 4 ans et compte terminer ses études de droit avant ses 30 ans. Peter baisse la voix et interroge Magdalena sur le choix de l'arme de service et la fréquence avec laquelle elle change le canon lorsque les rainures sont usées. Elle ne relève pas ses lourdes allusions et lui répond qu'elle note scrupuleusement le nombre de tirs émis.
« Mais tu aimes la grosse artillerie, hein ?» dit Peter.
« Non, pas du tout. J'utilise un Glock 17. Il marche avec la plupart des munitions 9 mm de la Défense nationale. »«
Tu n'utilises pas le tchèque ?»
« Si, mais je préfère le M39B, » dit-elle.
Ils entrent dans la salle de réunion, s'installent à leur place et saluent Yona.
« Et sur le Glock, on peut avoir des éjecteurs près de la visée, » poursuit-elle. « Ça réduit considérablement le recul et on peut passer plus vite au tir suivant. »«
Qu'en pense Moumine, notre petit troll finlandais ?» demande Peter.
Yona sourit gentiment. Mais ses yeux deviennent d'une netteté glaciale quand il répond avec son accent finlandais chantant
« Que c'est sans importance, que ce n'est pas ça qui compte. »« Donc tu n'as pas besoin de savoir tirer, »
ricane Peter.
« Yona est un bon tireur, » dit Magdalena Ronander.
« Bon en tout, » soupire Peter.
Magdalena ignore Peter et se tourne vers Yona.
Le plus gros avantage du Glock compensé, c'est qu'on ne voit pas le gaz produit par la poudre sur la bouche du canon quand il fait noir.
Tout à fait, dit Yona à voix basse. Contente d'elle, Magdalena ouvre sa pochette en cuir et se met à feuilleter ses documents. Benny entre, s'assoit, regarde tout le monde, abat ses mains sur la table et constate avec un grand sourire le regard énervé que lui retourne Magdalena.
J'ai pris l'affaire de Tumba, dit Yona. De quoi s'agit-il ? Demande Peter. Toute une famille poignardée. Ça ne nous concerne pas, dit Peter.
Je pense qu'il pourrait s'agir d'un tueur en série, ou du moins...
Mais laisse tomber, bon sang,
l'interrompt Benny en le regardant dans les yeux et en tapant de nouveau du plat de la main sur la table.
Ce n'était qu'un règlement de compte, continue Peter. Emprunt, dette, jeu. Il était connu à Solvalla. Joueur pathologique, confirme Benny. Il empruntait de l'argent à des mafieux du coin et a dû payer le prix fort, conclut Peter.
Le silence retombe. Yona boit un peu d'eau, ramasse quelques miettes de son sandwich et se les fourre dans la bouche.
J'ai un pressentiment dans cette affaire, dit-il à mi-voix.
Alors il faudra demander ton transfert, dit Peter en souriant. Ce n'est pas une affaire pour la Rikskrim.
Je pense que si.
« Si tu veux cette affaire, il faut que tu ailles rejoindre la police de Tumba, » dit Peter. J'ai l'intention d'enquêter sur ces meurtres, s'obstine Yona. C'est à moi d'en décider, rétorque Peter.
Yngve Svensson entre et s'installe. Il a les cheveux gominés et plaqués en arrière, des cernes sous les yeux, une barbe rousse et porte comme toujours un costume noir froissé.
Yngvi, dit Benny d'un air satisfait.
Yngve Svensson est l'un des premiers experts du pays en matière de crime organisé. Il est responsable de la section d'analyse et fait partie du service de coopération internationale de police.
Yngve, que penses-tu de ce qui s'est passé à Tumba ? Demande Peter. Tu as regardé le dossier ?
Oui, ça a l'air d'être une affaire locale. Le type chargé du recouvrement des créances se rend à la maison. Le père aurait dû être chez lui, mais ce jour-là, il devait remplacer un arbitre dans un match de foot. Le type a probablement pris du speed et du rohypnol. Il est instable, stressé, prêt à démarrer au moindre incident. Il agresse la famille avec un couteau de chasse pour savoir où est le père. Ils lui disent sans doute la vérité, mais il pète les plombs et les tue tous avant de se rendre au terrain de sport.
Un sourire narquois sur les lèvres, Peter avale quelques grandes gorgées d'eau, met la main devant sa bouche pour masquer un rot, regarde Yona et demande
« Qu'est-ce que tu dis de cette explication ?»«
Qu'elle serait bonne si elle n'était pas complètement fausse, » répond Yona.
« Qu'est-ce qui est faux ?» demande Yngve sur un ton de défi.
« Le meurtrier a d'abord assassiné l'homme près du terrain de foot, » répond Yona calmement. « Ensuite, il est allé à la maison pour tuer les autres. »
« Dans ce cas, ce n'est sans doute pas une affaire de recouvrement, » dit Magdalena Ronander.
« On verra ce que dit l'autopsie, » marmonne Yngve. « Elle dira que j'ai raison, » répond Yona.
« Imbécile, » soupire Yngve en se fourrant deux portions de tabac à chiquer sous la lèvre. « Yona, je ne te donnerai pas cette affaire, » dit Peter.
« Je le vois bien, » soupire-t-il en se levant.
« Où est-ce que tu vas ? On est en réunion, » dit Peter.
« Il faut que je parle à Carlos. »«
Pas de cette affaire. »«
Si, » répond Yona en quittant la pièce.
« Reviens tout de suite !» crie Peter. « Ou je serai obligé de... »
Yona n'écoute pas ses menaces. Il se contente de fermer calmement la porte derrière lui, enfile le couloir et salue Anya, qui lève les yeux de son écran et lui jette un regard interrogateur.
« Tu n'es pas en réunion ? » demande-t-elle.
« Si, » répond-il en se dirigeant vers l'ascenseur.